Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de la rentrée 2021 de la Radio des Parents. Cette semaine, c'est le rendez-vous des parents à Metz. C'est un événement qui regroupe le monde associatif, pendant lequel il se passe plein d'ateliers dans toutes les structures autour de la parentalité. Aujourd'hui, nous allons discuter avec l'accueil famille des PEP 57 qui a rencontré les mamans autour d'ateliers qui parlent des émotions. Donc, j'ai avec moi Maggie de l'accueil famille ainsi que Zora. Bonjour Maggie et Zora.
Bonjour. Bonjour.
Et j'ai également avec moi Jean-Claude Weisdorf et Noël Antoniazzi, qui sont de l'association La Puce à l'oreille et qui seront les professionnels à l'écoute et avec les réponses que les mamans se sont posées durant cette semaine. Et moi-même, Tatiana, bonjour à tous. Bonjour. Alors, Maggie et Zora, du coup, vous avez fait des ateliers autour des émotions avec les mamans. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu?
Donc, c'est les mamans et les enfants.
Et les enfants, bah, encore mieux.
En effet, toute cette semaine, on a rencontré les parents et les enfants pour parler des émotions. Et dans ces différents ateliers, nous avons eu à construire un dé des émotions pour permettre aux enfants de s'exprimer. Donc, sur les différentes facettes des dés, il y avait les différentes émotions que les enfants ont exprimées. Voilà, ces jeux et ces activités ont permis aux enfants d'exprimer leurs émotions du moment, leurs émotions tout le long de la semaine.
D'accord. Et ils ont bien reçu cette activité? Ça s'est bien passé?
Ces activités se sont bien passées parce qu'on a bien vu que ce soit les enfants, que ce soit les familles, on ne sait pas comment gérer les émotions des enfants. Les enfants les expriment, mais nous, en tant que parents, comment on les accueille? On ne sait pas. Est-ce qu'on fait bien? Est-ce qu'on doit s'améliorer? Et c'est surtout en ce qui concerne les émotions, l'entourage joue beaucoup.
D'accord. Dans quel sens, à ton avis?
Lorsqu'un enfant crie, il pleure ou il a peur, le parent est désorienté parce qu'il est observé par les autres.
Ah oui, quand ça se passe en public.
C'est ça. Oui. Donc le parent se dit, est-ce que les autres pensent que je suis un mauvais parent lorsque mon enfant pleure dans la rue? Est-ce que je réprimande mon enfant quand il pleure dans la rue? Voilà, c'est ce genre de questions que les parents se posent.
Et alors, on parle d'enfants de quel âge que tu as vu cette semaine?
Nous, on a des enfants de tout âge. Les parents et les enfants qui ont assisté aux ateliers, c'est des enfants de 6 à 12 ans.
D'accord. Oui, donc ça fait quand même un panel, parce qu'entre 6 et 12 ans, les émotions ne sont pas exprimées encore de la même manière chez les enfants.
Exactement. On a des enfants qui expriment les émotions en chantant. Il y a d'autres qui dessinent, qui font plein de couleurs. Et c'est d'autant plus agréable que même s'ils n'arrivent pas à exprimer leurs émotions, à travers les dessins, on peut leur poser la question. Qu'est-ce qu'ils ressentent?
Zora, est-ce que tu as un retour à nous faire? Tu as participé à ces ateliers?
Oui.
Et alors?
Ben, comme a dit Maggie, moi c'était plutôt avec les enfants, donc chaque enfant s'exprime différemment. Mm-hmm. Ils ont énormément de difficultés à montrer comment.
Comment ça?
Quand on leur pose la question, on leur demande.
À les nommer.
Voilà, ouais. C'est ça.
Ça, c'est quelque chose que c'est j'ai aussi beaucoup noté. Ben, nommer les émotions, c'est compliqué ça. Parce que déjà, quand on est un enfant, on n'a pas tout le vocabulaire
exactement,
adéquat
voilà, c'est ça.
Pour pouvoir
c'est
exactement ça. Exprimer ce dont on a besoin. Moi, je le vois aussi, j'ai un petit enfant de 5 ans et demi, là. Et on a beaucoup travaillé sur les émotions parce que j'ai la chance d'avoir des amis pédopsies et tout. Enfin, vraiment, c'est de la chance parce que j'ai beaucoup de conseils et donc à base de livres, de ressources, de podcasts et de choses comme ça pour justement étendre le vocabulaire lié aux émotions et pouvoir lui permettre de mettre le doigt vraiment sur ses besoins.
J'ai aussi remarqué que l'enfant s'exprimait par rapport au comportement. Voilà, quand ça ne va pas, généralement, l'enfant, il l'exprime violemment, méchamment.
Ouais, c'est physique.
C'est ça,
physique.
Voilà.
Et à travers ces rencontres que vous avez eues cette semaine autour de ces ateliers, Zora et Maggie, vous avez pu avoir des discussions entre parents?
Oui, oui.
Ils se posent énormément de questions. Comment gérer, comme disait Maggie comment tout à l'heure.
C'est ça.
C'est le gros point d'interrogation.
Alors, maintenant, je vais du coup m'adresser à nos deux professionnels. Comment gérer?
Que faire? Bon, après, quand c'est de la joie, il n'y a rien à faire. Mais quand ça ne va pas, que faire?
La colère, par exemple.
Ouais,
la
alors, peur. À mon avis, voilà. Je pense que le gros sujet, c'est les colères.
Oui, les colères et la peur.
Parce qu'en plus, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui considèrent les colères des jeunes enfants comme des caprices.
Exactement.
Alors que ce n'est pas forcément le cas. C'est juste une manière de s'exprimer.
D'attirer que l'attention de l'adulte.
Ne comprend pas, quoi.
Alors, peut-être, moi, je commence en parlant, effectivement, en revenant sur le mot gérer, donc la gestion des émotions. Ouais. Ça, c'est un mot qui est très à la mode actuellement. Effectivement, on ne gère pas les émotions des enfants comme on gère un dossier dans une administration. Gérer les émotions, ça sous-entend quelquefois, on peut entendre avoir la maîtrise sur l'émotion que l'enfant est en train d'exprimer de manière plus ou moins recevable socialement, si je puis dire. Et peut-être, parce qu'il y avait aussi une question à travers ce que vous aviez exprimé, c'est que les parents sont souvent, comment dire, un peu perdus face à l'émotion que l'enfant exprime plus ou moins fortement, mais qu'il y a aussi le regard des autres qui leur fait peur ou qui leur fait honte. Et du coup, c'est comme un miroir grossissant quelque part qui culpabilise le parent, qui lui renvoie une image de lui-même qui n'est pas beau, parce qu'on voit bien le parallèle. Si mon enfant crie et n'est pas bien, c'est que moi je suis pas bien. Enfin, il y a des tas de choses, des tas de ponts comme ça qui se mettent en place. Et donc ça concerne donc le mot gestion des émotions. Je crois qu'un enfant, une émotion comme on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est une expression de la vie, voilà. Et que dans une émotion, y a de la tristesse, il y a de la peine, il y a du chagrin, il y a toutes sortes de choses comme ça qui viennent se dire plus ou moins bruyamment, mais qui sont aussi motivées par une souffrance, un état un peu compliqué, que l'enfant ne peut pas dire autrement. Voilà. Donc, plutôt que gérer les émotions, moi, je dirais comment essayer d'accompagner et quelquefois même de comprendre, de décoder pourquoi un enfant peut se mettre dans des colères ou des choses un peu excessives. Voilà.
Et cet aspect de honte, alors, qu'on peut recevoir les parents
Je veux dire qu'un enfant... ça peut être une grande gratification pour un parent. Il en va toujours du narcissisme et de l'ego des parents.
Ouais. Ce serait quand même quelque chose à déconstruire, je pense, pour les parents. Parce que c'est quand même un enfant qui a des émotions, même si elles sont fortes et même si elles sont en public, c'est pas honteux.
Oui, mais ça fonctionne comme ça.
Oui, je sais. Et c'est pour ça que je dis.
Alors, déconstruire, ça peut peut-être comprendre finalement. On dit comprendre les émotions des enfants, mais aussi comprendre peut-être les émotions que les parents ressentent à un moment difficile dans le comportement de l'enfant. Donc il y a peut-être deux partenaires à comprendre dans l'affaire.
Ah oui, c'est sûr. D'autant plus que les émotions des enfants provoquent des émotions chez les parents. Enfin, je veux dire, c'est un cercle vicieux, quoi.
La preuve, c'est qu'on ne va pas réagir de la même manière avec son propre enfant qu'avec un enfant qui n'est pas le sien. On aura beaucoup plus de distance parce que les enjeux affectifs ne sont pas les mêmes.
Mais par rapport aux parents aussi, les parents nous expriment le fait qu'ils peuvent recevoir l'émotion de leurs enfants quand eux-mêmes, ils sont bien à cet instant même, à l'instant T. Les parents reçoivent les émotions des enfants quand ils se sentent eux-mêmes bien dans leur peau, voilà, comme on va le dire. Parce qu'un enfant qui fait une colère, le parent le reçoit convenablement quand lui, en tant que parent, il sait comment le gérer. Et aussi, où l'endroit dans lequel le parent se trouve. Je prends un exemple concret. Lorsqu'un parent nous dit que mon enfant fait de la colère quand il est devant l'école, il y a le regard des autres et le regard que les autres lui renvoient. Fait, est-ce que je suis un mauvais parent? Voilà. Si mon enfant fait de la colère à la maison, ça veut dire que... Et devant l'école, ça veut dire qu'à la maison, peut-être qu'il fait pire.
Oui, est-ce que je suis un parent laxiste? En plus, devant les écoles, il y a les instits qui sont là. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué.
Alors, c'est ce que Maggie, elle exprime là, c'est quelque chose que tous les parents ressentent. Hein. Mm-hmm. Moi, j'ai ressenti ça aussi quand j'avais des enfants plus petits. Bon, maintenant, ils sont grands, mais c'est un sentiment qui est partagé. Quoi. Le parent est gratifié ou fier, mais le parent peut aussi avoir honte quand, l'enfant se comporte mal. Ou...
En plus, j'imagine que c'est plus un sentiment d'échec que de honte que le parent ressent à ce moment-là. C'est un genre du... Ouais. C'est pas très rigolo.
Je crois que c'est pas... Vous parliez d'échec, vous parliez de déconstruction. Alors effectivement, en se plaçant au point de vue éducatif, effectivement, on se dit, tiens, j'ai mal éduqué mon enfant, pourquoi il fait ci? Pourtant, je lui ai appris, on lui a montré, il continue toujours à faire la même chose, il s'exprime toujours à ce moment-là sur ces choses-là. Mais là, donc, c'est un rappel aux parents de ce que l'enfant, finalement, pour lui, quelque chose est devenu insupportable. Donc effectivement, il exprime quelque chose à ce moment-là. Alors effectivement, sur le moment, le parent n'est pas toujours apte à l'écoute, effectivement, de ce qui fait événement pour l'enfant, déjà, et ce qui est fait événement pour lui. Qu'est-ce qui se passe pour l'enfant et qu'est-ce qui se passe pour lui? Tout à l'heure, vous parliez très justement du regard des autres, de la position du parent par rapport au regard des autres, et aussi l'enfant qui peut profiter de cette situation dans le regard du parent, le voyant un peu pris dans le regard des autres, parce qu'un enfant est intelligent. Nous, on est toujours brouillés avec plein de choses. Hein. On imagine, on construit des choses. L'enfant est construit aussi, mais il apprend à construire à ce moment-là. C'est-à-dire dans l'événement et dans l'émotion, qui peut se traduire soit par la colère, soit par des pleurs, par des cris, par des refus, par des mouvements de corps comme ça, qui sont désagréables au regard des parents. Là, effectivement, se pose la question pour le parent, qu'est-ce qui se passe pour l'enfant, mais qu'est-ce qui se passe pour moi? Et l'enfant aussi, lui, il est en train de se déterminer en tant qu'individu. C'est-à-dire qu'il se construit aussi par rapport à son environnement, par rapport à ce que lui ressent et parce qu'il a envie de dire. Et il n'a pas toujours les mots pour le dire. Donc quand il n'y en a pas les mots pour le dire, donc il y a une expression qui peut se manifester, aussi de montrer un mécontentement, une façon de ne pas être d'accord avec son parent, avec les parents. Mais dans une théorie expliquée comme ça, c'est facile, mais simplement pour essayer d'expliquer comment les choses peuvent se mettre en place et qui font événement à un moment donné. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour l'enfant, il y a quelque chose qu'il reçoit par un mot, par une parole, par un regard, par rapport à un environnement qui lui semble hostile à ce moment-là. Effectivement, il manifeste quelque chose, il manifeste de l'émotion. Et l'émotion, c'est toujours un trait de création, c'est-à-dire que c'est un trait qui permet de mettre quelque chose en place qui ne peut s'exprimer pas par les mots, mais par une expression voilà, du corps, c'est-à-dire un cri, des pleurs, trépigner des pieds, mille autres choses. Donc il y a quelque chose qui se met en place chez l'enfant et que le parent a des difficulté à comprendre. Et c'est là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et bien là, on est des fois dans des impasses. Alors on se dit, qu'est-ce qu'on fait? On laisse faire, on intervient. Si j'interviens, comme le disait très justement, au regard des autres, qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais être ressenti? Donc du coup, on se met en position d'infériorité pour mettre en place quelque chose à valoriser le cri ou la position de l'enfant. Alors qu'effectivement, il faut avoir suffisamment de tempérament, de courage ou de réflexion à ce moment-là, mais on ne l'a pas toujours, de façon à essayer de, pas de maîtriser, mais essayer de mettre l'enfant peut-être dans un endroit où il pourrait se calmer, pas manifester vis-à-vis des autres finalement son autorité, mais le faire dans une manière plus, comment dirais-je, plus relationnelle avec l'enfant, quelque chose qui se fasse entre soi-même et l'enfant, qu'est-ce qui se passe, et peut-être pas le faire forcément devant tout le monde. C'est aussi des situations, et c'est vrai que quand on est parent, moi-même aussi j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. Donc ce que je vous explique là, c'est quelque chose qui peut sembler théorique, mais c'est quelque chose aussi qui fait partie de la manière dont nous-mêmes nous nous sommes construits dans le rapport aux autres, c'est-à-dire autoriser l'autre à pouvoir manifester son mécontentement sans en être déséquilibré, sans prendre pour soi la colère comme accusatrice de quelque chose. Hein, peut-être la voir comme quelque chose de bénéfique pour l'enfant parce qu'il exprime quelque chose qu'on a du mal à traduire. Sur le moment, on ne peut pas le traduire, on ne peut pas l'écrire, ce n'est pas quelque chose. On ne sait pas ce qu'il veut dire. On pense que c'est à cause de ça, mais ça peut être tout à fait autre chose. Peut-être des conséquences d'avant. Donc, vous voyez, c'est très complexe. Alors, quand on explique de gérer les émotions, alors, moi, je trouve que c'est un peu... moi, je disais tout à l'heure, effectivement, pour reprendre ce que disait Noël, c'est un mouvement de vie, l'émotion. C'est quelque chose qui vient de l'intime. C'est quelque chose qui vient de l'intime, qui vient de l'intérieur de soi et qui s'exprime par des mouvements que le corps exprime, des gestes, des mouvements de corps, des pleurs, des cris, voilà, donc des expressions. Donc, et puis en même temps, l'enfant se construit, c'est-à-dire qu'il met en place une autorité, il met en place, voilà, ça, il se manifeste comme un individu à vouloir exister un peu autrement et à vouloir se faire écouter. Alors ça peut être des caprices, ça peut être du côté de la contrainte aussi, parce que voilà, on le contraint, donc il fait des colères. Mais ça, c'est plus de l'émotion, ça, c'est des colères. L'émotion, c'est des pleurs, c'est quelque chose ça touche l'intime. On sent que l'enfant est mal, il n'est pas bien, il exprime. La colère, il exprime quelque chose. C'est violent, ça peut être violent, c'est des mouvements qui se manifestent. L'émotion, c'est le regard de l'autre, c'est les pleurs, c'est quelque chose qui se renferme sur l'enfant, c'est quelque chose aussi qui... Au toucher, par exemple, dans le toucher, il y a aussi des manifestations comme ça, de rejet. Il y a quelque chose qui se passe, qui devient insupportable, qui est difficile pour lui à supporter. Donc il y a quelque chose qui s'exprime là d'une manière personnelle. Les colères, tout le monde, les enfants font des colères, hein, les enfants pleurent, le rapport
mais
de
c'est
la mère.
C'est l'émotion, la colère.
Oui, oui, la colère aussi, mais, j'ai pas, mais c'est des différentes émotions. C'est-à-dire que, est-ce que c'est du côté de l'éducatif? C'est la question qui est posée. Pourquoi il crie? Ou c'est du côté, finalement, du côté du sentiment aussi, du côté de l'affect, de quelque chose qui n'est pas passé, qui n'est pas été compris, parce que dans le rapport à l'enfant, il y a quelque chose dans les mots qui n'ont pas été, qui n'a pas compris. Donc, il manifeste quelque chose. Il y a toujours une manifestation de quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas été saisi, et puis parce que ça fait partie de la vie, les émotions. On ne peut pas empêcher un enfant de crier, d'avoir des colères, d'exprimer sa vie, un enfant. On ne peut pas les mettre dans des cases, dans des normes quand même, ce n'est pas possible. Si on pense ça, c'est foutu, je crois que l'individu est foutu, il va être rangé comme des oignons, comme des pommes dans des cageots, comme ci, comme ci, comme ça. Non, un enfant c'est particulier, chacun est particulier, chacun exprime la manière dont il est par rapport à l'autre et par rapport à son parent, par rapport à son éducation. Et ça dans tout le fil, dans toute la construction.
Alors moi, j'aurais une question par rapport à ça et par rapport aux émotions des enfants et des adultes. C'est qu'en fait, on se fixe beaucoup sur la manière qu'ont les enfants d'exprimer leurs émotions et elles sont beaucoup moins bien acceptées que celles des adultes. Par exemple, un enfant qui va se mettre en colère, il va être perçu comme un enfant mal élevé, insupportable, alors que les adultes se mettent en colère aussi. Et quand eux se mettent en colère, ils vont être perçus comme quelqu'un qui est peut-être fatigué, qui a eu une mauvaise journée au boulot... oui, bon, aussi, il faut le comprendre. Pourquoi il y a cette différence de traitement entre les émotions exprimées par les enfants et celles exprimées par les adultes, qui sont quand même souvent les mêmes? Enfin, moi, je sais que ça m'arrive de rentrer le soir, d'être fatiguée et d'avoir envie de pleurer parce que juste, je suis fatiguée. Un enfant, le soir, qui se décharge aussi de sa journée et qui pleure, tout de suite, c'est pénible. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, on s'est dit, non, les enfants, il faut qu'ils soient comme ça, calmes, sinon ça ne va pas. Les adultes, les adultes, ils ont des bonnes raisons, eux. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas?
Le point commun dans les émotions, c'est que tout être humain en ressent.
Oui.
Voilà, que ce soit les enfants, les adultes. Maintenant, la manière de traiter ça, c'est-à-dire que l'adulte est un peu censé avoir un contrôle sur ses émotions que l'enfant n'a pas forcément. Et c'est là qu'interviennent les parents, finalement, pour aider l'enfant qui est dans une difficulté. Là, on parlait de la colère, mais bon, il y en a d'autres, des émotions.
Bah justement,
quand on... Et la fatigue chez les enfants, et les enfants, ils sont quand même sollicités socialement énormément aujourd'hui, beaucoup, beaucoup. Ils font beaucoup d'activités, ils vont à la cantine, ils vont au périscolaire le soir. Donc, ils se tapent quand même des journées de collectivité qui sont très, très longues. Ouais. Et ça, c'est pas forcément... quelque chose de facile pour eux, ils y font face très difficilement quelquefois. Ah ben. État de fatigue qui, en plus, augmente, qui amplifie finalement l'émotion, parce que l'enfant, plus il est fatigué, moins il a de contrôle sur ce qui se passe en lui, un peu comme nous, hein, comme vous le disiez.
Ben oui, c'est ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que nous, c'est acté. Hein, l'enfant, il va, comme vous l'avez dit très justement, le matin à l'école pour 8h30 et le soir, il peut rentrer chez lui pour 18h45, c'est le préscolaire. Hein.
C'est ça.
Ensuite, c'est la course, hein, le repas, la douche, hop, une histoire et dodo. Si on a le temps, enfin, je sais pas, c'est hyper court parce qu'on voudrait qu'il aille se coucher tôt. Donc, entre le temps de rentrer 19h et 20h, il se passe une heure dans laquelle il y a encore plein de trucs à faire. Et l'enfant, il n'a pas le temps de se poser. Et l'adulte, il est encore stressé de sa journée. Sauf que, comme l'adulte est fatigué, il va moins accepter la fatigue de son enfant. Et alors que ça devrait être acquis. Enfin, c'est pas simple. Hein. Moi, je suis un parent fatigué le soir aussi. Mais pourquoi, dans les consciences collectives, c'est pas acquis qu'un enfant il est en construction de ses émotions et qu'on accepte moins qu'il les exprime, alors qu'il a justement encore plus le droit de les exprimer de manière un petit peu confuse qu'un adulte, qui devrait, lui, justement, faire la part des choses et se dire « Non, bon, moi, je suis l'adulte, ok, je suis fatiguée, bah, quand il sera au lit, je pourrai me reposer. »
Moi, je crois, enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Jean-Claude, mais moi, ou les personnes qui participent à la radio, mais moi, j'ai l'impression qu'on demande actuellement aux enfants des capacités qu'ils n'ont pas.
Oui, c'est ça, voilà. C'est exactement ça.
Donc, on leur demande de se comporter comme des petits adultes. Mmh. Alors, c'est des petites personnes, mais ce ne sont pas
en
des
devenir,
adultes.
En devenir, quoi.
Oui. Voilà. Et donc, c'est... Actuellement, tout à l'heure, on parlait du rythme des enfants. Je voulais quand même préciser quelque chose. C'est que les parents n'y peuvent rien.
Ah non, bien
ils
sûr.
Sont pris,
non, c'est sûr.
Ils sont pris dans un rythme, un tempo que la société impose, puisqu'on est quand même pris dans... On est en lien avec une société qui régule, qui impose, qui oblige, qui... Voilà, donc pour que ce soit clair et que les parents ne se sentent pas
coupables
en plus de devoir travailler, etc.
Non, voilà. Les parents subissent.
Mais je crois,
aussi,
oui. Je crois qu'on demande aux enfants de devenir très vite des adultes. Et on rate, du coup, peut-être un temps qui est nécessaire aux enfants pour pouvoir travailler à l'intérieur de lui, toutes ces choses-là. Et,
oui, on leur demande de ne pas trop dépasser, quoi.
En fait, ça l'adulte déjà de se gérer soi-même, voilà, et ensuite de contrôler les émotions de l'enfant.
Bon, après, c'est difficile, hein, même, enfin, pour les adultes, tout est difficile autour des émotions dans tous les cas, parce qu'il y a tellement de facteurs à prendre en compte. Et puis c'est vrai, vous avez raison. Aujourd'hui, on vit dans un monde où tout va très vite. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de demandes. Et puis en ce moment, il y a beaucoup de coronavirus. Donc tout le monde est... c'est une période vraiment exceptionnelle où les émotions sont encore décuplées par rapport
au contexte actuel.
Au contexte, un contexte normal, quoi. Mmh. Donc, ouais.
Un peu trop.
Ma génération, par exemple.
C'est vrai.
Donc, ils se font cerner beaucoup plus.
Oui, et analyser à tout bout de champ, quoi.
Oui, puis... quelquefois des petites bêtises, on les prend un peu trop.
Je suis d'accord avec vous.
Mais en tant que parent, on souhaite tellement avoir un cadre correct pour nos enfants, correct vis-à-vis de qui, vis-à-vis de la société, sûrement. Donc, en tant que parent, on souhaite que nos enfants soient, entre guillemets, des bons enfants.
Des enfants parfaits, quoi.
Voilà, qui ne nous fassent pas honte, surtout quand on sort, autant... Les émotions, on les reçoit correctement quand ils sont à l'intérieur de la maison. Mais quand c'est à l'extérieur, Et quand c'est des émotions comme la joie, on est content en tant que parent d'avoir bien fait. Par contre, quand l'enfant exprime de la colère, parfois aussi de la peur, pourquoi pas même du dégoût, parce que parfois on a l'impression qu'on éduque nos enfants comme il faut, comme la société voudrait qu'on fasse, et l'enfant, lui, quand il arrive au milieu des autres parents, des autres enfants, comme si l'enfant défiait les parents. Les parents nous le disent, hein, je fais tout pour qu'il soit bien, mais dès qu'il y a le regard d'une autre personne, une tierce personne, je ne reconnais plus mon enfant. Voilà. Donc, ma question, c'est comment, en tant que parent, je peux faire pour que mon enfant ne me fasse pas honte quand il est au milieu des autres.
On entend beaucoup ça hein, dans les questions qui sont posées, le regard des autres sur le parent lui-même, hein, presque plus que la problématique de l'émotion chez l'enfant. La
pression parentale, quoi.
Ouais, beaucoup, on entend beaucoup ça.
Et la phrase alors, que je pense que tous les parents ont dit au moins une fois, c'est « Non, non, mais il n'est pas tout le temps comme ça.
Hein. » Oui, parce que c'est rassurant. Ouais. On se rassure en tant que parent de dire que mon enfant n'est pas tout le temps comme ça, parce que c'est pénible.
Et puis c'est vrai.
Après, on est obligé de se justifier.
Et puis comme quoi ? Comme un enfant ?
Oui, la question, c'est aussi, vous disiez très justement, c'est la question que les mamans, les mères se posent souvent, avoir un bon enfant. Avoir un bon enfant, c'est quoi un bon enfant ? C'est quoi un bon enfant ? Un enfant, c'est un enfant. Donc, alors, il y a des mauvais enfants, il y a des bons enfants, donc on met le curseur sur l'éducatif, là. Et comment on éduquer, comment la structure familiale fonctionne, qu'est-ce qui fait, comment les activités des uns et des autres, comment ça se passe dans le cocon familial, est-ce qu'il y a une fratrie, comment les partages se font, est-ce qu'il y a des contraintes, les occupations, les activités. Donc tout ça, ça donne un volume d'informations on arrive à partir de ce moment-là à pointer, à essayer de pointer quelque chose qui peut donner une idée du comportement ou d'une explication d'un comportement d'un enfant par rapport à un autre enfant. Donc on voit quand même que, et je vous rebondis sur ce c'est très juste aussi, c'est au niveau des parents, de la structure familiale, et vous disiez très justement aussi tout à l'heure, les émotions sont les mêmes. C'est-à-dire qu'on a les mêmes émotions que nos enfants, mais les nôtres, on doit les accepter parce qu'on arrive à les contrôler, mais on n'accepte pas que l'enfant ne sache pas les contrôler. Mais et il y a encore un apprentissage.
Mais oui, mais comme disent les parents, les enfants n'arrivent pas à les contrôler. Mais nous, en tant que parents, on peut les contrôler si nous-mêmes, à ce moment T, on arrive à gérer. Oui, parce que la fatigue, que ce soit la fatigue ou que ce soit autre
parent,
chose...
c'est aussi un être humain, ce n'est pas un robot. Il ne peut pas toujours être super zen tous les jours dès qu'il est en contact avec son enfant. Je veux dire, il faut aussi que le parent... Enfin, je pense, hein, j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais il faut aussi que le parent il accepte que des fois, à ce moment-là, je ne suis pas en capacité de m'occuper de ça. Mais je pense que de toute façon, le plus important... c'est de communiquer avec son enfant, même une heure après. Je ne sais pas, j'ai dit des bêtises ou...
Peut-être que quand il y a une colère, effectivement, faut
des fois, il
pas
suffit
sur
de
le coup en discuter, mais...
Laisser la colère se faire et en reparler après.
Prendre sur soi et après.
Oui, peut-être, moi, j'ai toujours... Quand un enfant est très en colère et puis qu'il y a les gestes qui le débordent, il y a deux principes, c'est qu'il se fasse pas mal et qu'il fasse pas mal aux autres. Ça, c'est la ligne de conduite. Après, on peut toujours revenir sur une colère. Qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, j'ai eu l'impression que j'ai compris ça. Qu'est-ce que t'en penses ? Voilà. De manière à pouvoir l'aider à élaborer des pensées autour d'un ressenti presque corporel chez les enfants.
Oui, voilà. Et puis des stratégies.
Plus ces pensées... plus c'est contrôlé, maîtrisé, et plus l'enfant arrive à dire avec des mots ce qu'il ressent. Ce qui est admis socialement, c'est qu'on puisse parler entre individus. Ce n'est pas admis qu'on donne des coups de pied, qu'on tape, qu'on... voilà.
Oui, c'est... Pour rebondir sur ce que vient dire Noël, il y a la question du sens. Quel sens on donne à un moment donné dans l'expression de son enfant, qu'est-ce qui nous dérange, de qu'est-ce qu'on comprend de ce qu'il en est, qu'est-ce qui se passe, comment lui donne du sens à nos paroles, à notre regard, quand on le contraint, quand on l'oblige à respecter les lois, certaines lois tout au moins, comment lui aussi, dans son environnement, comment il a suffisamment d'informations qui lui sont données pour pouvoir faire face à ce que, quand il lui arrive un événement, ils sont en capacité de pouvoir le gérer, pour reprendre le thème de l'émission, c'est-à-dire suffisamment de mots ou d'informations qui lui ont été données dans une construction familiale où il y a des échanges qui sont, disons, voire plutôt apaisés que violents. Il y a aussi cette référence-là, ça reste toujours le creuset quand même, hein, c'est pas systématique non plus, hein, mais enfin, ça note quand même des comportements extérieurs des enfants. Donc ça, c'est aussi, on voit que gérer les émotions, ça nous renvoie quand même à nous-mêmes aussi, la manière dont on a mis en place suffisamment d'informations, suffisamment de repères pour que l'enfant, à un moment donné, puisse gérer ses émotions, c'est-à-dire pouvoir se manifester, savoir se défendre. Mais aussi savoir ne pas participer en sachant que s'il y participe, il peut se passer quelque chose de mauvais pour lui. Donc il y a tout cet équilibre qui s'apprend et qu'il apprend dans les cours de l'école aussi, hein, et qu'il les prend. Ou que ce soit le bébé qui crie dans un supermarché, on est tout de suite un peu paniqué, tais-toi, qu'est-ce qu'on lui fait, on lui met le biberon dans la bouche, on lui met une sucette, il faut qu'il se taise absolument. Non, il a besoin de crier, il crie. Bon, après, c'est gênant, mais c'est gênant pour qui? Pour vous, pour les autres? C'est de la question qu'il faut se poser. Hein, c'est surtout cette question-là, parce que finalement, si ça ne vous gêne pas, ben, il va peut-être se taire de lui-même, il va se fatiguer de lui-même, ou vous allez trouver une solution un peu plus calmante. Mais il y en a beaucoup qui s'énervent et ça n'arrange pas la situation. Du coup, les enfants sont les enfants, donc ils s'expriment, mais il faut les accepter comme ils sont. Corriger, corriger, j'aime pas tellement, mais mettre en place quelque chose qui fasse entendre que finalement, c'est pas comme ça qu'on agit ou qu'on réagit, ou la manière dont il a réagi, essayer qu'il puisse s'exprimer, le dire, et ça, c'est très difficile. Bien souvent, les enfants n'arrivent pas à dire ce qu'ils pensent, parce qu'il y a l'autorité parentale, parce qu'ils ont peur du regard du père, des parents. Donc il y a tout un ensemble de choses et de circonstances qui font que pour l'enfant, c'est difficile. Je dirais c'est difficile, comme pour le parent.
Mais je pense à aussi quelque chose qui est quand même très naturel chez l'enfant, c'est le jeu. C'est comme ça qu'il apprend, c'est comme ça qu'il s'exprime. Et peut-être qu'une manière aussi de dédramatiser les colères après qu'elles se soient produites, c'est de jouer. Alors on peut jouer de mille manières, on peut faire des jeux de rôle, on peut raconter une histoire, on peut mimer. Alors, parce que le jeu, ça permet de dire finalement à l'enfant, c'était pas si grave que ça. Voilà. Et parce que les parents, quand ils sont pris dans ce que vous disiez tout à l'heure, une situation de honte, ils sont blessés.
Oui, c'est ça. Ils en veulent à leur question enfant d'égo,
après. Oui. Voilà, ils en veulent. Et pour eux, c'est grave. Et donc, du coup, plus ils sont blessés, moins ils arrivent à jouer, moins ils arrivent à se détendre. Et plus, pour l'enfant, ça paraît être quelque chose... il se sent mauvais à ce moment-là envers son parent, quoi. Je l'ai blessé, je lui ai fait mal, il ne comprend pas bien, donc... il y a beaucoup de choses à dénouer là-dedans, je crois.
Et nous, pendant les activités, j'ai une amie qui m'a prêté des bouquins. Donc, on a pu travailler avec ces bouquins où c'est une des couleurs. Donc, on a demandé aux enfants comment ils se sentent. Et donc, les enfants, quand ils sont joyeux, les couleurs sont très belles, très vives. Et par contre, quand ils sont en colère, c'est la couleur rouge. Et quand ils sont paisibles, la couleur verte. Donc, ça permet, nous, en tant qu'adultes, de demander à l'enfant pourquoi est-ce que tu utilises cette couleur, à quel moment tu utilises cette couleur. Et les parents ont apprécié. Parce que si l'enfant ne peut pas verbaliser systématiquement l'émotion qu'il éprouve, le fait de dessiner, de l'exprimer sur une feuille, ça permet d'avoir une discussion.
Oui, puis ça, les couleurs, c'est très bien pour les enfants, effectivement, parce que ça permet de symboliser quelque chose, une espèce de matière qu'ils ont en eux, qui est un peu brute, qu'ils subissent, parce qu'ils subissent. Hein. Quand il y a de la colère en eux, c'est les parents subissent, mais les enfants aussi. Et donc, ça permet effectivement de mettre un symbole sur un ressenti. Donc, on est déjà plus dans la construction, le jeu, l'élaboration, le symbolique. Et après, autour de la colère rouge, on peut inventer des histoires aussi. Hein. Il était une fois un petit bonhomme, oh là là, il commençait à faire une grosse colère, il est devenu tout rouge,
oui, ben,
une espèce de monstre en lui qui
le
dominait.
Le livre en question, voilà, c'est la couleur des émotions, voilà. Il s'agit d'un petit monstre en fait,
ça, c'est très
qui
bien,
comprend
ça.
Ses émotions à travers des couleurs.
Ne pas lui dire qu'il est le monstre, mais lui dire que quelquefois, il est pris par une colère, un petit monstre en lui qui le fait déjà souffrir lui-même.
Et comme ça aussi, il comprend qu'il n'est pas responsable de toutes ces émotions trop fortes qu'il exprime. C'est comme ça, ça arrive. Et il faut qu'elles sortent, quoi.
Et puis que c'est commun. Je veux dire que les parents, on peut le dire aussi. Tu vois, moi aussi, des fois, je suis en colère. Moi aussi, j'ai du rouge en moi. Des fois, j'aurais envie de donner un coup de poing à celui qui m'a embêté. Enfin, ça permet quand même de dire à l'enfant... tu fais partie du groupe humain, et chez les humains, il y a de l'émotion.
Et puis heureusement,
on va essayer ensemble. On va essayer ensemble de travailler ça pour que tu puisses grandir. Tes émotions, elles seront là, mais tu auras un petit peu plus de contrôle. En tout cas, quand c'est des émotions un peu violentes, quoi, qui s'expriment violemment.
Une question me vient à l'esprit. Vous, en tant que professionnel, vous pouvez nous dire à quel moment, nous, en tant que parents, on estime que l'enfant entre guillemets, peut gérer sa colère.
Elle n'arrête pas de dire gérer. Hein.
Parce que c'est le mot qui revient régulièrement.
Accompagner.
Donc, on accompagne l'enfant.
Gérer, ça veut dire, je comprends, dominer, quoi. Se sortir un petit peu tout seul de cet état-là. Hein, c'est ça, je comprends. Moi, je dirais, les parents connaissent bien leurs enfants. Hein. Et... en fait, c'est une question générale qui vous a été posée.
C'est ça.
Et qu'est-ce que ça veut dire, alors, gérer tout seul l'émotion? Ça veut dire le mettre dans la chambre?
Je pense à partir de quel âge ou de quelle période de la construction de l'enfant, un parent peut considérer que, bon, maintenant, ça suffit les colères, ou enfin, j'en sais rien. C'est ça?
Enfin, à partir de quel moment, quand il dépasse les limites?
Oui, bah, c'est quoi les limites? Mais après, c'est vraiment individuel à chaque enfant, je pense.
C'est les limites que vous vous autorisez. Vous lui autorisez, c'est tout.
Ouais.
C'est son limite que vous lui autorisez en tant que parent. Ça s'arrête là. Il y a, la question... Il y a une question... tout ce qu'on vient de dire, c'est important. C'est très important. On essaie de construire, on essaie de répondre chacun à sa manière. Hein. Vous posez les bonnes questions, vous amenez des résultats de rencontres, ça c'est enrichissant. Ce que je voulais dire, c'était que la question qui me gêne un peu, c'est pourquoi vouloir contrôler. Moi, franchement, je trouve, parce que je généralise, c'est-à-dire qu'on essaie de contrôler l'ensemble des enfants, des ados, des parents. On leur dit comment il faut faire, comment il ne faut pas faire, ce qu'il faut consommer, ce qu'il ne faut pas consommer, ça, c'est pas bien, c'est comme ci, c'est comme ça. Et le parent ne sait plus, parce qu'à partir du moment donné où il écoute les uns les autres, et tous les spécialistes des spécialistes, donc il ne s'y retrouve plus. Donc il se pose la question, qu'est-ce que je suis? Jusqu'où je peux aller? La question que vous posez, à quel moment je peux, à un moment donné, accepter ou plus accepter, je ne me rappelle plus le terme que vous avez employé, mais finalement, le parent, il est responsable. Hein. Nous, parents, on est responsables. L'enfant, c'est quand même notre chair, notre sang, c'est quand même quelque chose, c'est quand même une personne, c'est un individu, c'est quelque chose, c'est un enfant qui va faire sa vie, et donc il faut qu'il se construise, donc il a des défauts, il ne peut pas avoir que des qualités, il ne faut pas lui donner et vouloir qu'il ait que des qualités, qu'il ait que des bons points, qu'il trace toujours la même couleur. Non, c'est comme la douleur. Une fois elle est à 5, une fois elle est à 10, une fois elle est à 12, une fois c'est supportable, une fois c'est insupportable. C'est la vie. Donc c'est des mouvements de vie. Simplement, chaque mouvement de vie donne un événement. C'est-à-dire que soit pour le parent, dans la rencontre avec le parent et l'enfant, ça fait événement. C'est qu'à un moment donné, il y a un désaccord. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Ben justement, ça ne colle pas. Heureusement que ça ne colle pas, parce que ça permet de trouver des solutions, d'avancer ensemble, de parler, de se parler. C'est surtout ça, c'est l'échange de mots, de paroles, de symboliser les choses, de mettre en place des références de la famille, des références, essayer de trouver des références solides, pas forcément aller chercher chez les autres, c'est d'abord chez soi. Chez les autres, c'est toujours mieux. Soi-disant, c'est mieux chez les autres. T'as vu comment ils se comportent? T'as vu comment ton copain... Mais voilà, mais comparaison n'est pas raison. On est bien d'accord. Donc, il faut... Soyez ce que vous êtes. On est ce qu'on est. On fait du mieux possible. Et il ne faut pas oublier aussi une chose, et moi, c'est ce que j'ai appris tout au début, c'est que c'est l'enfant qui fait le parent. Hein, c'est l'enfant qui fait le parent. Quand on rencontre son enfant la première fois, on apprend à être parent. On apprend toujours à être parent, même quand ils sont plus vieux, même quand ils sont ados, même quand ils sont mariés, ils reviennent toujours, il y a toujours les mêmes choses qui viennent à un moment donné se repérer, mais d'une autre manière, parce qu'il y a une construction, parce qu'il y a une expérience de vie. L'enfant n'a pas cette expérience de vie, il la découvre. Donc effectivement, gérer ça, c'est difficile. Il n'y a pas de code. Les seuls codes, ce sont la manière dont les parents veulent éduquer leurs enfants ou ont une idée de son éducation ou de son avenir, ou se projeter avec lui ou projeter son avenir ou le guider là-dedans avec des repères pour qui les parents sont essentiels. Voilà, c'est tout. Après, le reste, les émotions, c'est la rencontre. Hein. Et j'avais aussi une autre question à vous poser pour continuer le débat. C'est que vous parliez des enfants de 6 à 12 ans. C'est pas la même chose. Donc, on peut parler des bébés, on peut parler de la petite enfance, on peut parler de la sortie de l'enfance, on peut parler de la préadolescence et on peut parler de l'adolescence. Et on voit toute cette chaîne, cette évolution de l'enfant, du bébé jusqu'à l'âge adulte, voilà comment les choses, les émotions vont le traverser, vont le guider, vont le façonner, vont permettre de se définir aussi par rapport aux autres, par rapport à l'autre, par rapport à la rencontre amoureuse, par rapport à tous ces effets d'extérieur qui vont s'intérioriser chez lui, comment il va se débrouiller avec ça, avec ses émotions, avec ses affects, avec ses transgressions. Et voilà, il va se construire avec ça. Et gérer ça, on essaye de faire au mieux.
Noël avait un...
Oui, moi je voulais revenir sur la question que posait Maggie, qui me paraît quand même importante, et sur en partie la réponse. Enfin, il y avait, dans la question de Maggie, il était question de... la question, c'est comment être parent, jusqu'où on peut aller, etc. La question de l'éducation, effectivement. Et il y avait la question de la limite. Alors, effectivement, la limite, elle appartient aux parents propres. Elle n'est pas inscrite dans un code auquel on pourrait se référer pour se dire, tiens, à ce moment-là, il faut que j'intervienne, là, il ne faut pas que j'intervienne. Le code, il est en nous, hein, je crois. C'est le modèle qu'on a eu nous-mêmes de nos parents. Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement intime, de personnel, d'individuel. Et ça... Je veux dire que quand un enfant fait une colère, il y a aussi l'idée qui déborde quelque part et que là, il a besoin du parent. Hein, une colère qui déborde, c'est une façon de dire « aide-moi, moi, je n'y arrive pas tout seul ». Donc, la limite que le parent va poser, c'est ni bien ni mal, c'est une nécessité parce qu'il répond à un malaise chez l'enfant. Contenir une colère, c'est-à-dire dire oh, « ben non, tu ne fais pas ça » ou viens avec moi, on va sortir, parce que là, on ne va pas embêter tout le monde. Ben non, tu ne peux pas donner des coups de pied, ça, je ne veux pas. Bon, allez, on sort. Et puis, c'est contrôler la colère de l'enfant. C'est-à-dire, c'est l'aider à contenir sa colère et qu'elle ne le ravage pas totalement. Et les parents consistants, c'est-à-dire qui ont de la matière en eux et qui sont capables de dire, ben non, ce n'est pas possible, ça va aider l'enfant.
Il y a des fois où... Quand l'enfant ressent une grande colère, et là vraiment, j'en parle parce que ça me concerne, Mon fils, quand il était plus petit, bon, après, il y a des questions d'âge, il me semble, oui, hein, de construction et tout, mais quand il avait autour de 3 ans, il avait vraiment des fureurs, en fait, des fureurs. Et ça pouvait durer une heure où je ne pouvais rien faire. Il était presque absent, c'était comme s'il était en dissociation et il voulait tout casser, il me tapait moi. Bon, c'est fini ça. Hein. Et je ne pouvais ni l'isoler, donc le mettre en sécurité, ni me mettre en sécurité, parce que de toute façon, dès que je faisais un pas, il me suivait partout dans la maison. Et ça là-dessus, à part attendre que ça se passe et lui signifier bah, que j'étais là, j'ai pas su quoi faire. Et c'était vraiment terrible pour moi, dans mon cœur de maman, de le voir dans cet état de détresse, déclenché par des petites choses que je n'ai même pas pu identifier. Parce qu'en plus, si j'avais pu identifier à chaque fois pourquoi ça s'est enclenché, j'aurais peut-être pu les éviter au fur et à mesure. Mais je n'ai même pas réussi à faire ça, et ça a été une période très très difficile. Ça n'a pas duré 6000 ans, hein, mais ça a duré quand même quelques mois. Et quelques mois, dans ce contexte, c'est comme 10 ans, quoi. C'était vraiment difficile. Est-ce que j'aurais dû l'emmener voir quelqu'un? Est-ce que j'ai posé la question à des gens? Je suis allée me renseigner sur Internet, j'ai appelé des amis professionnels. Et en extérieur, il a jamais. Il n'y avait que avec moi qu'il le faisait. Hein. Que avec moi, il se faisait garder, il allait au périscolaire. Il n'était pas comme ça, avec personne. Pas violent, gentil, machin. Et le soir, c'était tout pour moi, quoi. Je m'en prenais des petits
c'était
points dans la
fille. C'était peut-être pour attirer l'attention aussi.
Non, mais il avait l'attention, il n'y avait pas le choix, de toute façon. Toute mon attention, il l'avait. Et, mais c'était douloureux, quoi. Je me suis quand même douloureux physiquement et moralement. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait?
Je pense que quelquefois, je ne connais pas la situation familiale, ouais, mais c'est bon, ça c'est un exemple, un cas qui peut parler aussi à d'autres parents, à d'autres mères. Quelquefois, quand les mères sont seules avec un enfant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de...
Oui, c'est le cas.
Y a pas, quand ouais, c'est un garçon, c'est peut-être encore presque... Enfin, à cet âge-là, oui, plus oui, compliqué. Ça peut être... ça peut se passer, ça peut se produire. C'est-à-dire que la présence d'un homme, alors bon, voilà, on fait comme on peut dans la vie. La présence d'un homme, quelquefois, enfin, que ce soit un tonton ou un ami, ou, peut apaiser un peu des choses, parce que c'est un tiers qui se met entre dans l'amour entre la mère et l'enfant.
Oui, comme
quelque chose de très
un médiateur,
fort, un peu un médiateur et quelque chose qui temporise un petit peu cette,
ouais, bon, en tout cas,
ce rapprochement intense.
C'était vraiment difficile.
Parce que on va citer Freud, mais quand même, le rêve du petit garçon, c'est que sa maman lui appartienne. Hein. Ouais. On est dans quelque chose de d'épien et à 3 ans, on est en plein là-dedans. Donc la question, c'est qu'est-ce qui va faire barrage entre ma maman et moi pour que mon fantasme d'avoir ma mère à moi, de la posséder, ne se réalise pas, parce que c'est une source d'angoisse, quoi. Donc c'est pour ça que souvent la présence d'un tiers et quelquefois d'un homme, quand il s'agit d'un garçon ou même d'une fille, ça peut aider beaucoup. Mais bon.
Là, c'est une question importante, parce que là, vous soulevez... Il avait quel âge, votre...
Il avait 3 ans.
Ouais. Oui, c'est la question de la séparation.
Oui.
Comment on se sépare de l'objet d'amour? Comment on accepte que l'objet d'amour, qui est sa mère, soit pris par quelqu'un d'autre?
Oui, donc c'était
alors qu'elle m'appartient.
Dans son développement, quoi.
Pardon?
C'est dans son développement que
voilà,
ça s'est passé.
Structurel.
Oui.
C'est structurel. Et à l'époque, il y avait
ça,
les...
Ça ne fait pas de lui à un enfant malade. Hein.
Oui, oui, bien sûr. Non, non, bah,
ça... Non, ça n'a rien... C'est une réaction normale, logique. Alors effectivement, ça peut durer et c'est difficile. Et pour ça, la maman, il faut qu'elle... À l'époque, il y avait la maison verte qui était de Françoise Dolto, qui accueillait ses parents aussi pour que les enfants rencontrent d'autres enfants du même âge ou qu'il y ait des partages, qu'ils rencontrent d'autres personnes. Pour qu'il y ait cet échange comme ça, culturel aussi, qui est très important.
En collectivité, parce que j'ai toujours travaillé. Donc, il allait à la crèche, il a été en nourrice.
Oui. Oui, mais là, vous n'étiez pas présente pour lui.
Oui, ben oui, c'est sûr, il fallait bien que je travaille.
Oui, non, mais c'est... Alors, c'est... Voilà, donc, c'est difficile.
Ouais, ouais.
Oui, c'est non, difficile. Je
c'est pas votre absence, hein. C'est pas non, ce qu'il non. veut dire. Non, il veut pas... dire que dans un lieu comme la maison ouverte, la possibilité de guetter offerte à la fois à la maman et à l'enfant, c'est que l'enfant, en toute sécurité, puisque sa maman n'était pas loin, il pouvait aller vers les autres. Et la mère avait des contacts avec les autres.
Oui, une question me vient à l'esprit. en tant que parent, comment faire lorsque nos enfants n'expriment pas leurs émotions?
Alors, il y a beaucoup de choses dans cette question. L'idée, c'est que le parent... il peut y avoir plusieurs idées. Qu'est-ce que le parent entend quand il dit ça? Ça peut être... j'ai l'impression que mon enfant ne se confie pas suffisamment à moi et que le jour où il aura besoin de moi parce qu'il sera en danger, je vais rater quelque chose parce qu'il ne me le dira pas. Il peut y avoir aussi l'idée de... c'est dommage. Mon enfant ne me dit pas tout et j'aimerais bien tout savoir. Déjà sur ces deux questions-là, c'est très différent, quoi.
Est-ce qu'il ne me cache pas quelque chose?
Est-ce qu'il ne nous cache pas quelque chose? Mais qu'est-ce qu'il peut... Parce que finalement, cacher, ça veut dire quoi? Ça veut dire un enfant n'a pas obligation d'exprimer à ses parents tous ses fantasmes, toute sa vie psychique. Il dit ce qu'il veut, comme nous. Il n'a pas plus d'obligation que... Ce qu'il y a, c'est que si le parent craint que l'enfant soit en danger, qu'il ne lui dise pas, à ce moment-là, c'est autre chose. Soit il sent que son enfant a des difficultés à se défendre et qu'il ne saura pas trouver des solutions si on a. Et à ce moment-là, il peut en parler avec lui. Il y a toujours des solutions à trouver, quoi. Mais l'idée de devoir tout savoir de nos enfants, ça, je crois que c'est une idée auquel les parents doivent renoncer, parce qu'on ne sait pas tout de nos enfants. Voilà. Il y a des tas de choses qui nous échappent. Leur rêve, par exemple... Quand ils rêvent, c'est leur vie psychique intime et ils ne vont pas forcément aller le raconter aux parents, sauf quand il y a des cauchemars et qu'ils ont besoin d'être rassurés. Mais leurs rêves, leurs jeux, leur amour à l'égard des copains, des copines, toutes ces choses-là, quoi. Donc, il faut savoir renoncer finalement à tout savoir sur son enfant. Il faut être là pour le protéger, mais il ne faut pas être là comme un espèce d'agent secret qui saurait tout, quoi.
Eh oui, Maggie. Ouais. Laisse tes enfants tranquilles un petit peu.
Je sais que c'est pas simple, hein,
Ben moi, j'ai envie de résumer un peu tout ce qu'on a dit. J'ai l'impression que toutes ces histoires d'émotion, d'accompagnement, d'expression, je ne sais plus le mot, des émotions des enfants et de leurs parents, c'est globalement une histoire de confiance, en fait. Oui. Il faut faire confiance à son enfant, il faut que l'enfant fasse confiance à son parent.
C'est ça.
Puis les limites se font toutes seules après, non?
Oui, mais c'est accepter son enfant comme il est.
Oui, c'est ça. Lui faire confiance dans son individualité, quoi.
Oui, faire confiance, respecter aussi, le respecter dans cette manière d'être, oui. D'exprimer, de s'exprimer, même si ça fait pas plaisir, mais au moins qu'il puisse exprimer les choses. C'est-à-dire entendre quelque chose qui nous déplaît. L'entendre, mais pouvoir lui répondre aussi, mais d'une manière aussi paisible, enfin pas paisible, c'est-à-dire pas rentrer, si vous voulez, dans la confrontation.
Dans le conflit.
Essayer de faire ça, c'est pas toujours facile. Pas toujours facile, parce qu'on n'a pas toujours les mécanismes de réflexion au moment T, comme vous le disiez très justement. Parce qu'au moment T, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est l'événement. Je reviens sur ce mot-là, ça fait événement pour nous, en tant que parents. Et pour l'enfant aussi, ça fait événement. Qu'est-ce qu'on fait devant l'événement? C'est qu'on est face à quelque chose où on n'a pas les mots encore. Ils ne sont pas encore là.
Il y a aussi quelques stratégies. Quand les émotions de nos enfants nous échappent un peu, on peut mettre en place des choses à la maison. Les fameuses roues des émotions, les coussins de la colère, ce genre de choses. Je ne sais pas si vous connaissez.
Tous les jeux, c'est
ouais, intéressant. Ça. Ouais. Puis de laisser l'enfant exprimer sa colère à travers un objet, plutôt qu'à travers vous.
Mais ce que vous dites, ça a toujours existé, même à notre époque, à mon époque, ça a toujours existé. Mais je trouve qu'il y a maintenant, avec Internet, et effectivement, les parents vont chercher les réponses sur Internet. Les enfants vont chercher leurs réponses sur Internet. Il n'y a plus cette communication.
Justement, il faut faire la différence entre Internet et la
vraie. Et puis ça a vidé beaucoup le symbolique, c'est-à-dire la rencontre des mots, l'effet des mots des uns vis-à-vis des autres, qui peuvent choquer, qui peuvent surprendre. C'est regarder quelqu'un, ou regarder son parent, ou regarder son enfant avec, j'allais dire les yeux de l'amour, mais enfin, quelque chose qui soit accepté, qu'on accepte, qu'il soit à un moment donné dans une situation difficile pour lui, et qu'on ne soit pas là en train d'essayer d'éduquer ou de rééduquer quelque chose qui se passe pour lui à ce moment-là, qui est important, qu'on n'arrive pas à saisir et pas comprendre, et puis laisser les choses un peu se déliter, et puis reprendre ça 2-3 jours après, sans oublier ce qui s'est passé, mais le reprendre après coup, c'est-à-dire pas sur le moment. D'éviter la confrontation, d'éviter les mots qui peuvent des fois dépasser notre pensée. C'est surtout ça, c'est trouver cet équilibre-là qui n'est pas toujours facile non plus à trouver sur le moment, sur l'instant T.
Maggie, Zora, est-ce que vous avez une dernière question ou un petit mot de la fin? Parce que je pense qu'il s'est quand même passé beaucoup de choses durant cette émission. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est rassurant d'entendre des professionnels nous dire que laisser les enfants s'exprimer, en tant que parents, on n'est pas forcément des mauvais parents, parce que la société est en train de toujours nous observer. Et après, on manque le coach avec nos enfants. La communication se rompt parce qu'on veut comparer nos enfants aux autres. Voilà ce que je retiens, c'est de dire que nos enfants sont uniques, c'est nos enfants. On les éduque comme on peut. On fait de notre mieux en tant que parents. Et puis, on verra ce que ça donne.
Zora, est-ce que tu veux réagir?
Tout est dit.
Bah oui, c'est une réaction.
Tout est dit.
Jean-Claude et Noël, merci beaucoup.
Avec plaisir.
Merci. Merci.
C'était vraiment très enrichissant. J'ai pris plein de notes dans ma tête. Que je pourrais mettre à profit tous ces bons conseils avec mes propres petits-enfants. Nous allons clore cette émission et je tenais encore une fois à vous remercier tous les quatre. J'espère que tout ça va être utile pour nos auditeurs. Je vous souhaite à tous un très bon week-end puisqu'on est vendredi. Merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.